Des cours et conférences postées par les universités et les grandes écoles, une sélection d'émissions de France Culture et des Radio Campus, des programmes originaux sur le monde étudiant. France Culture Plus, à découvrir sur franceculture.fr. France Culture, une radio du groupe Radio France.
La Cinémathèque française lance la première édition de Toute la mémoire du monde, le festival international du film restauré du 27 novembre au 2 décembre en partenariat avec Radio France. Au programme, un hommage à la Film Foundation avec une carte blanche à Martin Scorsese, plus de 40 films restaurés et des séances inédites pour revivre les premières expériences du cinéma sonore. Plus d'informations sur radiofrance.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet et son répondeur et c'est maintenant.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Moi, je vais vous raconter un petit truc qui s'est passé hier. Il y a mon pote Georges, qui est bijoutier, qui vit à Niamey, et qui a longtemps travaillé en France, et qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous nous parlez de démocratie? C'est quoi ce coupé? On dirait Gbagbo après les élections. Il veut pas laisser la place. Et puis il ajoute, moi, j'aime bien écouter France Inter dans mon atelier à Niamey. Il y a un mec, il est formidable, l'après-midi, on apprend des choses. Il s'appelle Daniel Mérimée.
Oui, bonjour, là-bas, je vous appelle d'ici, c'est pas très loin de Notre-Dame-des-Landes. J'ai écrit à mon député pour lui dire d'intervenir auprès de ses amis socialistes pour stopper la violence à Notre-Dame-des-Landes et que c'était pas possible de construire un aéroport dans la violence. Alors ce matin, j'ai reçu une lettre de l'Assemblée nationale, en tête de l'Assemblée nationale, et la lettre était assez épaisse. Je me suis dit que mon député, il avait dû écrire au moins 2 pages pour me répondre. J'étais content. La première idée a été que j'allais lui réécrire pour le remercier. Et j'ai ouvert l'enveloppe et en fait, c'était ma lettre qui était à l'intérieur avec l'enveloppe. Voilà, il l'avait lue certainement. Bon. Eh bien, c'est Jean-Pierre. Enfin, je vous dis pas d'où je suis, parce que mon député, il a l'air un peu susceptible, peut-être bien un peu limité même. Salut.
Bonjour, je suis Sarah, infirmière en Ile-de-France. Je viens ici vous communiquer la naissance d'un mouvement de soignants qui regroupe des aides-soignantes et des infirmières qui s'est créé sur Facebook il y a un peu plus d'un mois. Ni bonne, ni nonne, ni pigeonne. On invite tous les soignants, infirmiers et aides-soignants à nous rejoindre pour défendre nos conditions de travail et pour revendiquer un meilleur système de santé qui soit juste et solidaire, puisqu'aujourd'hui la qualité des soins se détériore au détriment du patient.
Oui, bonjour, ici on est en direct du palais de justice de Tours, tribunal, où il y a en ce moment même des faucheurs anti-OGM qui s'apprêtent à être jugés. Donc on est là, collectif anti-OGM, faucheurs volontaires d'OGM, Confédération paysanne de Touraine, et on les soutient très très fort, on ne veut pas d'OGM.
Oui Daniel, moi il y a quelque chose qui me chagrine depuis quelques années. Je suis médecin généraliste et quand je pense à ces hommes qui sont en train de perdre leur sexualité, voilà. Moi je veux vous parler du cancer de la prostate. On dépiste aujourd'hui le cancer de la prostate, on emmène tous les jours, il y a une centaine d'hommes qui se font opérer. 80% seront impuissants, la moitié seront incontinents, tout ça pour rien, puisque les études montrent que la mortalité par le cancer de la prostate ne change pas depuis 10 ans, ça n'a rien changé. Même la Haute Autorité de Santé dit qu'il faut arrêter ce truc-là, et pourtant ça continue. La Sécu rembourse, les urologues avec leur association des Françaises d'urologie continuent à prenez le dépistage, le docteur Chim à la télé, il n'a pas honte celui-là, il pousse les gens à y aller. Ah, et la Sécu rembourse, il y a 5 millions de tests par an, ça coûte 100 millions d'euros rien que pour les tests. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les restos du cœur, il y a du fric, mais on en fout à la poubelle et on rend des vies insupportables. Je m'appelle Christophe Desportes, je suis médecin, je viens d'écrire un bouquin qui s'appelle « Prostate, le grand sacrifice ». Voilà, moi j'aimerais qu'on en parle de ça même. Je voudrais même faire une enquête, si vous êtes prêts. Moi je veux bien aller voir les urologues, aller à leur congrès. Genre, il faut qu'on se batte parce que c'est n'importe, c'est terrible ce qui se passe.
C'est André dans le 66. Si vous pouvez faire la commission à Madame de Fontenay et du Monsieur Dubourg, là, et puis de la tête au carré, au niveau des animaux hein, et de la viande. Donc ben, j'ai entendu Madame de Fontenay qui disait qu'il fallait respecter plus les animaux, qu'elle-même mangeait de la viande, mais qu'on pouvait manger de la viande en respectant les animaux. Eh bien moi, je tenais à témoigner que pendant des années, déjà, j'ai mangé depuis tout petit de la viande que mes parents élevaient eux-mêmes et qu'ils respectaient beaucoup. Et même moi, je faisais des câlins à ces animaux-là. Et quand je les avais retrouvés dans l'assiette, je n'avais pas du tout envie de les manger, mais on me forçait de les manger. Après, quand j'étais moi-même grand, j'ai eu des animaux. Je les ai élevés avec beaucoup d'amour et puis j'en avais tellement que je me suis mis la mort dans l'âme à vouloir les tuer. Alors avec une carabine pour que ça soit propre, avec une seule balle entre les deux yeux. Et donc, j'ai tué des animaux, j'ai nourri mes enfants avec, et ma femme, et moi, je ne pouvais pas en manger. Et puis, jusqu'au jour où j'ai arrêté, parce que j'ai appris l'estime de moi-même, et alors là, je ne peux plus du tout les manger. Et ça fait des années que je mange plus de viande, j'en ai jamais de toute façon beaucoup mangé. J'en ai fait plus manger aux autres que j'en ai mangé moi-même.
Oh, pardon. Merci pour tous ces messages. Cher AMG, on est tous très émus d'entendre des choses pareilles. Quand, pour ce qui concerne la prostate, ce médecin très insurgé, là, je dois bien vous dire que ma compétence est tout à fait inexistante dans ce domaine. Donc, si vous avez des précisions à nous donner. Ce qui est dommage, c'est que ce médecin ne nous a pas donné son téléphone. On aimerait bien le joindre. Merci en tout cas pour vos messages. Merci aussi pour les messages concernant l'émission d'hier sur Tariq Ali, qu'on va retrouver aujourd'hui, comme prévu, une seconde heure avec Tariq Ali, intellectuel britannique engagé, né en 1943 à Lahore, au Pakistan, assez peu connu, disons, en France, mais beaucoup plus en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, et dans les écrits, le travail, les prises de position, l'engagement, les films, puisqu'il est cinéaste également, les romans, puisqu'il a écrit de nombreux romans, et les prises de position, les analyses, il est historien aussi, sont connus. Ce qui nous a intéressé déjà hier, dans le regard de Tariq Ali, c'est qu'il est né au Pakistan, il vit en Angleterre, donc il n'est pas sous le même angle que nous, tout à fait, pour regarder le vaste monde, et donc voilà, c'est différent, il y a une certaine richesse, une autre façon de voir les choses. C'est à l'occasion de la publication de ces conversations, de ces dialogues avec Oliver Stone, le réalisateur américain, un bouquin d'entretien publié chez Galahad, un éditeur français intitulé « L'histoire non dite des États-Unis ». Dans cet entretien, Tariq Ali raconte, en historien cette fois, l'histoire donc des États-Unis telle qu'on l'ignore bien souvent, enfin, avec son angle à lui et sa façon de voir les choses. C'est très intéressant, c'est très enrichissant, et donc on a voulu aller à sa rencontre à Londres avec Give Anctil à la traduction. Deuxième partie, donc, aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour aux AMG de Montauban et des alentours. Exceptionnellement, notre café repère aura lieu le 4e mardi du mois, soit le mardi 27 novembre. Le lieu et l'heure restent inchangés. Nous nous retrouvons à partir de 20h30 au Lézard Pub, rue Gillac, à Montauban. Nous parlerons ce soir du pamphlet écrit en 1883 par Paul Lafargue, Le droit à la paresse. Alors rendez-vous ce soir à partir de 20h30 au Lézard Pub à Montauban.
À l'UMP. If you look at the writings of Marx and Engels and that layer of intellectuals, they were constantly discussing the French Revolution.
Si on regarde par exemple les écrits de Marx, de Engels et de tout ce courant-là à cette époque, ils ne discutaient que d'une chose, la Révolution française.
How did the counter-revolution happen within the French Revolution.
C'est-à-dire, il posait des questions sur comment la contre-révolution a réagi face à la révolution.
How was Robespierre executed?
Comment Robespierre a-t-il été exécuté?
This was an obsessive discussion.
C'était vraiment des discussions obsessives.
I think one problem, if I can put it like that, with the young generation today.
Et je pense qu'un des problèmes aujourd'hui, si on peut dire, avec la jeune génération,
that they are growing up in a political culture which has totally debased history.
C'est qu'ils grandissent dans une culture politique qui est complètement coupée de ses racines historiques.
And they will have to make their own history as a result.
Et du coup, ils vont être obligés de faire, de se construire leur propre histoire.
Which is always very difficult.
Ce qui est toujours très difficile.
Where intellectuals were supposed to say yes to whatever the state says, these few people, Tariq Ali, stood up against the state.
Il y a de rares personnes comme Tariq Ali qui se sont opposées, qui ont parlé contre la raison d'État.
Merci à ces étudiants qui accompagnent Tariq Ali, qu'on retrouvera en fin d'heure. C'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil, une heure avec Tariq Ali.
I think that American democracy is the most decayed form of representative government in the world now.
Je pense que la démocratie américaine est la forme de gouvernement représentatif la plus décomposée, corrompue au monde.
Big money now dominates the election.
L'argent roi domine maintenant les élections.
Almost $2 billion was spent on this election.
Près de 2 milliards de dollars ont été dépensés pour cette élection.
So obviously the people who are selected from both parties are people that Wall Street and the big capitalists regard as safe people.
Et donc c'est évident que les ceux des deux camps qui sont acceptés comme candidats sont ceux qui ont été validés par Wall Street et par le big business comme étant acceptables.
Non, tous les intellectuels de cette génération ne sont pas des pédagogues de la soumission et des militants du renoncement. Il y en a quelques-uns qui sont restés cohérents et conséquents par rapport à leurs engagements, les engagements de leur vie, tout en étant capables de changer, d'évoluer, de connaître des ruptures et des cassures sans doute dans leur vie. Mais Tariq Ali, qui est né en 1943 à Lahore, au Pakistan, il nous a raconté sa vie hier, enfin les raisons qui font qu'il pense comme il pense aujourd'hui, a dû quitter son pays en proie à une dictature fasciste. Il a été obligé de s'installer en Angleterre. Il a fait ses études supérieures à Oxford. Il a toujours été un homme engagé à gauche, notamment à l'époque du Vietnam. Et puis il est devenu peu à peu un historien, un écrivain, un cinéaste. Il a travaillé notamment longtemps pour Channel 4. Il a fait partie de la 4e internationale trotskiste. Il a abandonné à un moment cette voie, la trouvant trop complexe, se subdivisant de façon stérile. Il a pris de la distance, nous disait-il hier, avec l'engagement, et puis l'engagement politique, et puis il y a eu le 11 septembre 2001, et tout d'un coup, il a senti la nécessité à nouveau de s'engager, en opposant, dans un ouvrage fameux qu'il a publié à cette époque-là, suite au 11 septembre, en opposant deux terrorismes. Le terrorisme, évidemment, d'Al-Qaïda et de Ben Laden, mais l'autre terrorisme également, face en face, celui, évidemment, de l'impérialisme américain. C'est une vision, c'est une idée, c'est une façon de regarder les choses, et il se pourrait bien que la guerre des idées soit repartie, mais que pendant des années, les années qui ont précédé un peu la chute du mur, et surtout celles qui ont suivi, eh bien, cette guerre des idées est disparue. Quelque chose s'était imposé, souvenez-vous, c'était la fin de l'histoire, c'était évident, il n'y avait plus à discuter, il n'y avait plus d'alternative. Et puis, petit à petit, les choses sont revenues, le débat politique est revenu doucement, c'est vrai, et pas avec la ferveur qu'il pouvait connaître dans les années 50-60, notamment en France, qui est la référence pour quelqu'un comme Tariq Ali. Il se souvient avec émotion de ces moments où la France, la scène intellectuelle française, était un phare pour beaucoup de gens à travers le monde, et notamment ceux qui venaient du tiers-monde, qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents. Un certain nombre de ces pays, d'ailleurs, ont bel et bien émergé, sont en train d'émerger, de bouleverser cet ordre politique, cet ordre économique, et aussi, probablement, à plus ou moins long terme, l'ordre intellectuel aussi mondial, et l'ordre de la guerre des idées. Voilà quelques clés qui peuvent nous servir à rentrer dans ce dialogue que nous avons aujourd'hui à Londres, donc, avec Tariq Ali, auteur, je le rappelle, de l'histoire non dite des États-Unis, avec Oliver Stone.
What do you say? How many kids did you kill today? Oh, yeah. Hey, Bush, what do you say? How many kids did you kill today?
Some people say my love cannot be true. Please believe me, my love, and I'll show you. I will give you those things you thought unreal. The sun, the moon, the stars, all by my seal.
After the fall of the Berlin Wall, I noticed that American culture in cinema, for instance, and American political styles were coming to Europe in a big way.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après la chute du mur de Berlin, j'ai remarqué que la culture américaine et la politique américaine entrer massivement en Europe.
I mean, you can see the decline in almost every major European country.
Et on voit le déclin qui en a résulté dans la plupart des pays européens.
Not money has not come into it in a big way.
L'argent n'est pas arrivé massivement.
But it's there behind the scenes.
Mais c'était vraiment derrière la scène, à côté.
Mm-hmm. As we see in Britain, France, Germany.
Et c'est ce qu'on a vu en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne.
Not to mention Italy.
Et sans mentionner bien sûr l'Italie.
And so we have now, I think, a form which we could say is the democratic dictatorship of capital.
Et la forme qu'on a aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la dictature démocratique du capital.
So that in every, almost in every European country, you have what I call the extreme center.
Et ce qui fait que dans presque tous les pays européens, on a ce que j'appelle l'extrême centre.
In which you have the center right and the center left.
Où il y a le centre gauche et le centre droit.
Who disagree on certain cultural issues.
Qui pourront être en désaccord sur quelques questions d'ordre culturel.
Like gay marriages.
Par exemple, le mariage gay.
But who on the fundamentals are in total agreement.
Mais qui, pour les questions fondamentales, sont parfaitement d'accord.
So elections in Europe have now become elections which really mean a shift, not in politics, but in patronage.
Et donc les élections en Europe sont des élections qui sont des changements, pas de politique, mais d'un système de clientélisme.
So that if party A wins, all their friends and close buddies are given jobs, allowed to make money.
Donc si le parti A gagne, tous leurs amis et proches peuvent avoir des emplois, peuvent accéder à des bons emplois et gagner l'argent.
If party B wins, they do the same thing.
Et si le parti B gagne, c'est la même chose qui se passe.
And so this, I think, is hollowing out democracy in Europe.
Et c'est vraiment en train de vider de sa substance toute la démocratie dans toute l'Europe.
And when third parties emerge, which are challenging like Syriza, they are immediately demonized.
Et dès qu'il y a d'autres troisièmes voies qui sortent pour essayer de mettre un terme à cette fausse alternatisme, comme le fait Syriza en Grèce, ils sont immédiatement diabolisés.
And I think one reason for the rise or the support for the extreme right is that people say it's not part of this corrupt political establishment.
Et une des raisons qu'il y a cette croissance de l'extrême droite un peu partout en Europe, c'est que les gens se disent, bah voilà, voilà des gens qui ne font pas partie de ce même monde clos.
And I noticed in the French election campaign that Marine Le Pen often attacked Jean-Luc Mélenchon by saying he is... When it comes down to it, at the end, he is a creature of the socialists.
Et j'ai bien vu pendant la campagne présidentielle française que Marine Le Pen attaquait régulièrement Jean-Luc Mélenchon en disant, mais regardez, au bout du compte, il n'est qu'une créature du Parti socialiste.
And I think third parties of the left, in order to move forward, have to break the links.
Et je pense que les partis d'alternative à gauche, si elles veulent pouvoir percer, doivent briser les liens qui l'unissent.
And this is the mode in many, many European countries.
Et c'est le sentiment qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de pays européens.
So I think, I'm not saying that nothing will happen, but it's a long, hard struggle ahead.
Donc je ne vais pas dire que rien n'arrive, rien ne va changer, mais le combat qui nous attend est long et dur.
Αν βρεθείτε στην Ελλάδα θα το συνειδητοποιήσετε.
Αλεξίς Τσίπρας.
Ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε έναν...
Chef du groupe parlementaire Syriza, mai 2012.
Si vous étiez en Grèce, vous pourriez constater que, en effet, le peuple grec se trouve engagé dans une guerre de type spécial. Certes, il n'y a pas de morts, mais les victimes se comptent par millions. Ce sont les gens qui sont condamnés à la pauvreté, au chômage, qui sont sans perspective, qui ne peuvent pas rêver. Il s'agit d'une guerre qui est menée par la finance, avec une intensité particulière, en Grèce, mais pas seulement en Grèce. L'Europe, à l'heure actuelle, se trouve à un carrefour. Et le danger du néofascisme est réel. Soit elle choisit la voie d'une refondation, dans le sens de la cohésion sociale et de la démocratie, soit elle va s'engager dans une voie hors de tout contrôle qui sera marquée, en effet, par la montée de forces néofascistes.
Dans une interview que j'ai sous les yeux, vous avez dit « Bien sûr, les forces conservatrices résisteront en Grèce comme à Bruxelles. La lutte risque d'être violente. »
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε πλήρη επίγνωση ότι δεν θα έχουμε ένα δρόμο σπαρμένο με λουλούδια.
Ce que je veux dire est que nous sommes pleinement conscients du fait que la voie dans laquelle nous nous engageons ne sera pas parsemée de fleurs. L'oligarchie, les puissants multiplieront les obstacles à notre chemin, même au risque de la stabilité de l'économie. Mais si le peuple est de notre côté, nous pensons que nous pouvons l'emporter.
Mais vous avez aussi quand même, vous êtes pas mal investi dans le mouvement altermondialiste, le forum social de Porto Alegre, et vous êtes intervenu dans tout ça.
It was a very important development when it happened.
Oui, c'était quelque chose de très important quand ça est arrivé.
Because it was the first sign of new forces beginning to wake up from the neoliberal nightmare.
C'est parce que c'était les premiers signes de nouvelles forces qui sont en train de se réveiller du cauchemar néolibéral.
And getting together in Porto Alegre, which was a very interesting democratic city, and meeting each other for the first time in 20 years.
Et c'était une manière de se retrouver ensemble à Porto Alegre, qui est une ville très intéressante démocratiquement, mais c'était aussi de se retrouver et de s'apercevoir qu'on n'est pas seul pour la première fois depuis 20 ans.
But there was even at the beginning too much dependence on NGOs.
Mais dès le départ, il y avait aussi une trop grande dépendance vis-à-vis des ONG.
Which limited serious political discussions.
Qui, du coup, limitait les discussions politiques sérieuses.
But then you had suddenly big shifts within South America.
Mais très vite après ça, il y a eu des grands changements politiques en Amérique latine.
Chavez is elected in Venezuela.
Avec l'accession au pouvoir de Chavez au Venezuela.
The PT is elected in Brazil.
Le parti des travailleurs de Lula qui prend le pouvoir au Brésil.
And then slowly Morales in Bolivia.
Et plus lentement après, Evo Morales en Bolivie.
Corea in Ecuador.
Et Corea en Équateur.
And then this movement lost its significance because real political life had dominated the continent.
Et donc ce mouvement altermondialiste a un peu perdu d'importance parce qu'il y avait de la vraie politique à l'œuvre, en action, en Amérique latine.
But the conferences which carried on taking place became rituals.
Donc ces conférences, ces réunions de forums sociaux mondiaux sont devenues un peu des rituels, plus qu'autre chose.
The same tired old faces turning up to make the same tired old speech.
Les vieux mêmes visages fatigués qui se retrouvent pour faire les vieux mêmes discours.
Very boring.
Très ennuyant, en fait, quoi.
And not designed to take anyone forward.
Et ce qui n'avait pas pour but d'amener quoi que ce soit en avant.
Their successors in the United States have been Occupy.
Et le successeur de ces mouvements forums sociaux, ça a été Occupy Wall Street aux États-Unis.
It's the dominant currents are anarcho-liberals versus anarchists.
Et donc les courants en fait, c'est les anarcho-libéraux contre les anarchistes globalement.
Oui. And again very reluctant to discuss concrete political alternatives.
Mais encore une fois, il rechignait grandement à discuter concrètement d'alternatives politiques.
When I was speaking to the occupation in the Bay Area on the West Coast.
Quand par exemple, je parlais avec les mouvements Occupy qui avaient dans la baie de San Francisco sur la côte ouest américaine.
I said I'm very glad you're doing this.
Je leur ai dit que je suis très content que vous fassiez ça.
But tomorrow you have called a general strike in the Bay Area. What are the demands of the general strike?
Vous avez appelé demain à une grève générale dans la baie de San Francisco, mais quelles sont vos revendications?
They said don't shop today.
Et ils ont dit ne pas faire de courses aujourd'hui.
So I kept a straight face.
Donc j'essaie de pas me décomposer.
But I said it's not enough.
Mais je leur ai dit, ce n'est pas assez.
I said, you need a charter of six demands.
Il faut avoir au moins une charte avec six revendications.
A free health service.
Un service de santé gratuit.
State-owned pharmaceutical and insurance companies.
Des compagnies pharmaceutiques publiques et d'assurance.
A free education system.
Un système d'éducation gratuit.
On a lower and a higher level.
Au niveau supérieur, mais aussi au niveau primaire.
Heavy regulation of Wall Street.
Des lois très strictes qui encadrent l'activité de Wall Street.
A high tax on all financial transactions.
Et une taxe importante sur toutes les transactions financières.
Et là, on vous a dit, mais vous venez de Cuba, vous.
Exactement.
Exactly.
They said, ah, he's a communist.
Et ben oui, les gens ont répondu, ah, c'est un communiste.
But some have supported me. I got some support.
Mais heureusement, j'ai eu un peu de soutien quand même.
But they were bewildered.
Mais ils étaient abasourdis.
That is how deep the neoliberal ideology has penetrated.
Et c'est vraiment une image à quel point l'idéologie néolibérale est profondément ancrée dans les mentalités.
And that is the problem we face.
Et c'est le problème auquel nous devons nous confronter.
Wise intelligent, yeah. À peine je prends le mic, ils savent que les infos vont tomber. Dites à Olivier Sarkozy qu'on sait qu'il a employé. Dites aussi à son frère qu'on se fera pas vacciner. Contre notre gré, j'ai la médecine chamanique à mes côtés. Hey, le diable les contrôle tous, ils sont l'enfer sur terre. Mais sur le terre-terre, mes disques de lumière avertissent mes frères. Donc les laboratoires Novartis, Smithline ou Aventis, je vais faire des millions, moi je sais où va leur pognon. Va dire à Jay-Z qu'il arrête de kiffer Obama. Avec l'impact qu'il a, qu'il écrive un putain de vrai rap sur Mumia et Amero. C'est la vraie même carotte que l'euro. Va demander aux Mexicains s'ils veulent se débarrasser de leur peso. Abraham Lincoln ne voulait pas des banquiers. C'est peut-être pour ça qu'on l'a assassiné. De la Scientologie à la NASA, de Jack Parsons à Roland Barthes. Ils boivent tous au même bar, fument tous sur le même cigare. Ne me parlez pas de judaïsme, d'islam, de christianisme. Chacun de ces noms abrite la démocratie.
nazis mais aussi le fascisme. Je plains les vrais religieux qui croient vraiment en Dieu. On pollue leur religion sans jamais se soucier d'eux. L'Irak, territoire de Babel et du jardin d'Éden. L'Iran, renseigne-toi sur Isfahan et son histoire qui saigne. Ce n'est pas en 5 minutes que je vais te faire tout comprendre. Nos morceaux sont les portes d'entrée pour avoir envie d'apprendre.
He's a banker, he's a Catholic, he's a Muslim at the master. He's a Judas, but he's Jewish and a democratic fascist. He's a mayor, he's a governor, he's a railroad magnate. He's a chichi undercover, he's a democratic fascist.
Il crée des crises financières, monétaires, économiques. Mais chacune de ses affaires cache la démocratie fasciste. Il crée des crises alimentaires, énergétiques, écologiques. Mais chacune de ses affaires cache la démocratie fasciste.
Tariq, je voudrais maintenant qu'on parle de l'islamisme, et ça vous avez travaillé à travers vos enquêtes et vos romans sur l'islam et sur l'islamisme. Il y a en France l'islamophobie, je ne sais pas comment c'est en Angleterre, ici on est à Londres, mais en France on a vraiment quelque chose qui est rampant, qui est plus ou moins masqué, qui est une histoire ancienne aussi chez nous, qui dort comme un reptile au fond de la baignoire et qui se réveille régulièrement et qui empoisonne évidemment la vie quotidienne et la vie politique. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus sur l'islamophobie ?
Yeah, I think there are almost 30 million Muslims in Europe.
Oui, je pense qu'il y a près de 30 millions en Europe.
Which is the first time since the 16th century that there have been so many Muslims.
Et c'est la première fois qu'il y a autant de musulmans en Europe depuis le 16e siècle.
Of course, in the 16th century, you had, you know, we don't know the exact figures, but millions of Muslims in Spain, in Portugal, and in southern Italy.
Alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais jusqu'à cette époque-là, il y avait des millions de musulmans en Espagne, dans le sud de l'Italie et au Portugal.
And they were then told either to leave these countries or to forcibly be converted to Christianity.
Et ce qu'on leur a proposé à ce moment-là, c'était ou bien de fuir, de quitter ces pays, ou bien de se convertir par la force au christianisme.
And this is how the new European identity was created.
Et c'est à partir de là que la nouvelle identité européenne s'est forgée.
And in the 15th and 16th centuries, where the Muslims went, so went the Jews.
Et au 15e et 16e siècle, quand les musulmans sont partis, les juifs sont partis en même temps qu'eux.
Most of the Jews were given refuge in the Maghreb or in the Ottoman Empire.
Et la plupart des juifs d'Europe ont trouvé un refuge dans le Maghreb ou dans l'Empire ottoman.
Ou sont devenus maranes.
Or they converted. Many Muslims and Jews converted.
Beaucoup de musulmans et de juifs se sont convertis, oui.
Because they didn't want to leave their country.
Parce qu'ils ne voulaient pas vivre là où ils vivaient, leur pays.
Now the conversion is no longer possible.
Bon, la conversion maintenant n'est plus possible.
That will never happen.
Ça n'arrivera jamais.
So I think Europe has to think seriously about going back to its earlier identity.
Et donc je pense que l'Europe devrait sérieusement se poser la question de revenir à son identité antérieure.
And here you have a reversal on another level.
Et là, il y a un retournement à un autre niveau qui se fait.
During the years of Muslim rule in Spain, Portugal, Sicily, etc.
Pendant l'époque du règne musulman dans tout le sud de l'Europe, en Espagne et au Portugal et en Italie, en Sicile.
By and large, the Muslim rulers protected the Jews.
Dans une grande majorité, les gouvernants musulmans protégeaient les Juifs.
The Jews never rose to such high positions in any other parts of the world.
Les Juifs qui vivaient là n'avaient jamais atteint des positions sociales aussi élevées dans aucune autre partie du monde.
Today, the alliance the Jews have made is with the Christians.
Et aujourd'hui, l'alliance qui est faite par les Juifs, c'est avec les chrétiens.
And the reason for that is not history, it is contemporary politics, it is Israel.
Et la raison pour ça, de cette alliance, ce n'est pas l'histoire, mais c'est de la politique purement contemporaine, c'est la question israélienne.
And this has happened over the last 20-25 years.
Et ça a eu lieu au cours des 20-25 dernières années.
And so some of the most virulent Islamophobes in France are the most hardcore supporters of Israel.
Et quelques-uns des plus virulents islamophobes en France sont des principaux soutiens de la cause israélienne.
This is a tragedy.
C'est une tragédie.
But it's true.
Mais c'est vrai.
If you read what Pierre Taguieff,
Pierre-André Taguieff,
writes, It's shocking.
Et par exemple, si on lit ce qu'écrit Pierre-André Taguieff, c'est choquant.
The second reason, which is specific to France, is that the old Pied-Noirs, they cannot imagine that these people who chucked them out of the Maghreb are now in France.
Et l'autre facteur qui est spécifique à la France, c'est que les Pieds-Noirs qui ont été chassés de leur pays ne peuvent pas comprendre que ces gens qui les ont chassés de leur pays puissent aujourd'hui être présents aujourd'hui en France.
In Germany, you also have Islamophobia.
Il y a aussi de l'islamophobie en Allemagne.
It exists in Italy too.
Elle existe aussi en Italie.
And you know, it's very comparable to antisemitism.
Et en somme, elle est très très comparable à l'antisémitisme.
I was once at a literary festival in Italy, and an old lady stood up and said, "But please tell us what to do because these Muslims are killing each other in our neighborhoods."
Et je me souviens, je faisais une lecture en Italie. Et tout d'un coup, une vieille dame se lève, toute tremblante, et dit « Mais s'il vous plaît, dites-nous quoi faire, parce que ces musulmans sont en train de s'entretuer dans nos quartiers. »
C'était Oriana Fallaci, non?
Exactly.
Quel est l'enjeu?
Daniel Ben Saïd.
Ce qui menace aujourd'hui.
Là-bas, si j'y suis, 14 novembre 2003.
Et certains y travaillent assidûment, c'est de transformer le conflit israélo-palestinien et par ricochet les mouvements en France ou ailleurs en conflit racial, communautaire ou religieux. Et le fait que de part et d'autre, des gens disent, quelle que soit leur foi éventuellement, mais disent, ce n'est pas un conflit racial ou religieux, c'est un conflit sur des droits politiques, et on peut être juif et soutenir les droits des Palestiniens à un État, se battre pour l'arrêt immédiat de l'occupation, se battre pour le démantèlement des colonies. C'est la meilleure manière, justement, de casser, comme le disait Michel, les murs et de dire « c'est un conflit politique dans lequel j'ai plus de points communs avec des militants arabes, d'études palestiniennes ou de l'OLP qu'avec Sharon et avec d'autres ». Ça, c'est la démonstration qu'il faut faire contre l'ethnicisation et la confessionnalisation du conflit. Et ça peut se faire dans un espace comme le Forum social européen. Vous savez, je ne me suis jamais défini comme juif. J'étais citoyen français ou citoyen du monde. Si j'ai été obligé, après mûre réflexion, il y a 3 ans, de signer un appel en tant que juif de soutien aux droits des Palestiniens, c'est tout simplement parce que la prétention des porte-parole de la communauté juive à parler au nom de tous les juifs, exactement, me clouait contre mon gré à une appartenance, faisait du détournement de cadavres en annexant mes oncles, mes tantes et mes cousins morts en déportation pour légitimer ce que fait aujourd'hui l'État israélien en Palestine.
Daniel Ben Saïd, en novembre 2003, au Forum social européen à La Villette, à Paris. Je rappelle que Daniel Ben Saïd est décédé en janvier 2010 et il militait à ce moment-là. Et moi avec lui, et beaucoup d'autres, je le sais, contre l'ethnicisation et la confessionnalisation des conflits. On recevra bientôt dans cette émission l'intellectuel libanais Georges Korme, qui lui, un peu d'une façon très proche, milite pour la lecture profane des conflits. Idée aussi partagée, avec des nuances bien sûr, par Tariq Ali, avec qui nous passons cette heure, en compagnie de cet intellectuel engagé, c'est le moins qu'on puisse dire, mais avec d'abord, avant tout, une expérience, une réflexion, une connaissance politique et historique de ce monde en devenir.
So we have this problem.
On a ce problème.
You see, the problem is not unrelated to what's happening in the Arab world.
Mais d'ailleurs, le problème n'a pas son rapport avec tout ce qui se passe dans le monde arabe.
The defeat of Arab nationalism.
La défaite du nationalisme arabe.
The defeat of the Arab left.
La défaite de la gauche arabe.
After Israel's Six-Day War in 1967.
Qui est arrivée principalement après la guerre des six jours israélienne.
Created a huge vacuum in these countries.
Tout ça a créé un grand vide intellectuel dans ces pays.
So you had a dual process. One you had decaying nationalist regimes, donc, becoming more and more authoritarian.
Donc ce qu'il y avait, c'est que tout le nationalisme arabe était en train de se décomposer petit à petit et devenant de plus en plus autoritaire.
Mubarak in Egypt, the Baathists in Iraq and Syria.
C'est-à-dire le parti Baas en Irak et en Syrie, Hosni Mubarak en Égypte.
And becoming in Egypt and especially neoliberal.
Et devenant spécialement néolibéral en Égypte, par exemple.
This allowed the Muslim Brotherhood to become the dominant force in society.
Et c'est tout ça qui a permis, par exemple, aux frères musulmans de devenir la force politique dominante sur la scène politique égyptienne.
And I was once talking to a Brotherhood leader in Cairo after 9/11.
Et je parlais par exemple avec un des leaders des frères musulmans au Caire après le 11 septembre.
He said, "We don't go into the poor areas of Egypt and read the Quran to the poor."
Nous, il dit, nous, on ne va pas dans les régions les plus pauvres d'Égypte pour leur lire le Coran.
They do that in the mosque.
Ils font ça très bien à la mosquée.
We go up and set up small medical shops, health clinics, and treat them free of charge.
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des petits dispensaires, des petites pharmacies pour pouvoir soigner les gens gratuitement.
We provide cheap food for them.
On leur fournit de la nourriture bon marché.
We set up schools to teach them free.
On met en place des écoles avec des cours gratuits pour leurs enfants.
That is how we win support.
Et c'est comme ça qu'on gagne le soutien des gens.
It's not false.
Et c'est pas faux.
In Pakistan, the Jamaat-e-Islami, exactly the same.
Et le Jamaat-e-Islami au Pakistan a procédé exactement de la même manière.
So they have now reaped the harvest.
Et maintenant, ils n'ont plus qu'à récolter ce qu'ils ont semé.
But the Muslim Brotherhood in the Arab world now, I mean, it's a socially conservative force.
Mais il ne faut pas perdre de vue que les frères musulmans dans le monde arabe est une force socialement conservatrice.
Like the Christian Democrats all over Europe.
À peu près l'équivalent des démocrates chrétiens un peu partout en Europe.
Not much difference.
Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence.
But they are now producing breakaways from them who are more fundamentalists, saying you are betraying us, now you're in power, you're behaving in exactly the same way, we need a more militant Islam, etc.
Et donc maintenant ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des ruptures qui se font avec les forces les plus conservatrices, qui disent maintenant que les frères musulmans et les autres sont arrivés au pouvoir, vous vous comportez comme les autres, et c'est pourquoi il faudra aller vers un Islam plus radical et plus pur.
And all this is affecting the Muslim communities in Europe.
Et tout ça a un impact, a une conséquence sur les communautés musulmanes en Europe.
Secondly, there has been a problem all over the world of a big increase in religiosity.
Deuxièmement, il y a un autre phénomène qui touche le monde entier, c'est vraiment un accroissement du sentiment religieux.
Look at the United States.
Regardez par exemple les États-Unis.
The most religious country in the world.
Le pays le plus religieux au monde.
80% believe in the creator.
80% d'entre eux croient à l'existence du Créateur.
And 90% believe in angels.
Et 90% croient aux anges.
So it's the 10% who don't believe in the Creator but believe in angels who intrigue me.
Moi, ce qui m'intrigue là-dedans, c'est les 10% qui ne croient pas au Créateur mais qui croient aux anges.
Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu Tout-Puissant?
Je suis le pasteur John Hague et voici mon message à tous nos leaders et à nos partenaires de l'Association des chrétiens unis pour Israël. Je veux parler à toutes les personnes qui soutiennent Israël dans ce pays. Je veux que vous nous accompagniez à Washington en juillet pour aller voir tous les sénateurs et tous les membres du Congrès qui soutiennent Israël aux États-Unis d'Amérique, pour leur dire que nous sommes des chrétiens, que nous soutenons Israël, et pour leur expliquer pourquoi. Nous sommes la voix la plus importante que peuvent porter les chrétiens des États-Unis pour soutenir l'État d'Israël. Dieu vous bénisse. Restez avec nous pour participer à toutes les merveilles que Dieu prépare avec les chrétiens d'Amérique pour rapprocher les chrétiens et les juifs.
Et ces gens-là s'indignent dès qu'ils entendent le mot charia. C'est comme s'ils entendaient le diable lui-même.
I know. And this creates an unnecessary debate, which is the debate which is very strong in France of the hijab.
Voilà ce qui crée des débats qui sont parfaitement secondaires, comme celui qui est très puissant pourtant en France, sur la question du hijab, du voile islamique.
As if the virtues of French republicanism can only be defended by this measure.
Comme si les vertus du républicanisme français ne pouvaient plus être défendues que par l'interdiction du voile.
So I say it's the opposite of Iran and Saudi Arabia.
Je dis donc que c'est vraiment l'opposé de l'Iran et de l'Arabie Saoudite.
In Iran and Saudi Arabia, women are told you have to wear the hijab.
Par exemple, en Iran comme en Arabie Saoudite, les femmes sont forcées de porter le voile.
In France, you are told you cannot wear it.
Alors qu'en France, elles sont interdites.
So it doesn't make sense to me.
Donc pour moi, ça ne fait aucun sens.
And it gives state cover to Islamophobia.
Et surtout, ça donne une espèce d'alibi étatique à l'islamophobie.
Because often at big French political and cultural events, I'm still a bit shocked by this. It's unlike here. You see white faces.
Parce que c'est très choquant, parce qu'on ne voit pas ça ici, mais dans les grands événements politiques et culturels français, on ne voit que des visages blancs.
Which means that this young generation of Maghrebians, French Maghrebians, have not been integrated on a political level by the left.
Parce que ça veut dire que cette partie de la jeunesse française d'origine du Maghreb n'a pas été intégrée par la gauche dans les structures politiques.
And with Manuel Valls as the new interior minister, it's unlikely that they will be under this government.
Et ça risque pas d'arriver sous ce gouvernement avec des gens comme Manuel Valls à la tête du ministère de l'Intérieur.
He reminds me of Sarkozy.
Il me rappelle tellement Sarkozy.
His rhetoric is the same, his actions.
Ses méthodes et ses
acquises. La jeunesse. Et aujourd'hui, c'est l'espoir. Nous, on avait une espérance, on avait un avenir, on avait un futur. Et il dit, ce qui caractérise vraiment votre époque, disait-il à des jeunes étudiants, c'est la disparition complète de l'espoir, de l'avenir, du futur.
Yes, I think that is true to a certain extent.
Je crois que c'est vrai d'une certaine manière.
And our hope was related, I'm younger than Chomsky, but from the 60s generation, but our hope was related to the Vietnamese defeating the Americans, to the success of the Cuban Revolution.
Alors moi qui étais plus jeune, dans les années 60, notre espoir c'était la victoire des Nord-Vietnamiens, la victoire de la révolution cubaine,
the big general strike in France,
la grande grève générale en France,
etc., etc. And that impelled us forward.
Et tout ça nous tirait de l'avant.
Because hope is a very active emotion.
Parce que l'espoir, c'est une émotion très active.
And despair creates passivity.
Alors que le désespoir crée la passivité.
But I think Noam is right. And I think I compare our world today with, say, the world in which Marx lived.
Et je pense que Chomsky a raison et je pense qu'on peut comparer notre monde aujourd'hui à celui dans lequel Marx vivait.
If you look at the writings of Marx and Engels and that layer of intellectuals, they were constantly discussing the French Revolution.
Et si on regarde par exemple les écrits de Marx, de Engels et de tout ce courant-là à cette époque, ils ne discutaient que d'une chose, la Révolution française.
Same with Lenin and Trotsky.
La même chose pour Lénine et Trotsky.
How did the counter-revolution happen within the French Revolution.
C'est-à-dire, il posait des questions sur comment la contre-révolution a réagi face à la révolution.
How was Robespierre executed?
Comment Robespierre a-t-il été exécuté?
This was an obsessive discussion.
C'était vraiment des discussions obsessives.
And that kept them going in a way, and they saw themselves as part of a continuum.
Et donc, ils se voyaient comme faisant partie d'une continuité historique, et ça continuait à les pousser de l'avant.
The Enlightenment.
Les Lumières.
The French Revolution.
Après venait la Révolution française.
The 1848 revolution.
La révolution de 48.
The Paris Commune.
La Commune de Paris ensuite.
Then 1905,
1917 et ainsi de suite.
I think one problem, if I can put it like that, with the young generation today.
Et je pense qu'un des problèmes aujourd'hui, si on peut dire, avec la jeune génération,
that they are growing up in a political culture which has totally debased history.
C'est qu'ils grandissent dans une culture politique qui est complètement coupée de ses racines historiques.
And they will have to make their own history as a result.
Et du coup, ils vont être obligés de faire, de se construire leur propre histoire.
Which is always very difficult.
Ce qui est toujours très difficile.
Daniel Ben Saïd, qui était votre ami, et le nôtre aussi, il disait entre 1983 et 1994-1995, il dit que c'est les 12 années où nous n'étions nulle part.
I think that's true all over the world.
Mais je crois que c'est vrai partout dans le monde.
And it's part of the Reagan-Thatcher turn to neoliberalism.
Et ça, c'est tout ça est lié avec le tournant de Thatcher et Reagan vers le néolibéralisme.
Which affected most of the, certainly the Western world, but not just the Western.
Et donc, qui a affecté tout le monde occidental, mais pas que le monde occidental.
Now neoliberalism is in a hole.
Et mais maintenant, c'est le néolibéralisme qui est dans un trou.
So there is an opportunity once again to start modestly proposing alternatives.
Et donc, il y a une opportunité pour pouvoir commencer à proposer modestement des alternatives.
But it has to be done in the most inclusive, non-sectarian way possible.
Mais ça doit être fait de la manière la moins sectaire possible et celle qui touche le plus de gens.
And it makes me very sad that the organization to which Daniel Ben Said belonged all his life is breaking up and splintering, one into two, into three, into four.
Et ça me rend d'autant plus triste de voir, par exemple, que l'organisation à laquelle Daniel Ben Said a travaillé toute sa vie aujourd'hui ne fait de scission en scission.
Whereas I think there is an opportunity in France to develop the Front de Gauche.
Moi, je pense qu'il y a une autre opportunité en France, par exemple, de développer le Front de Gauche.
And similar groups in other countries.
Et l'équivalent dans d'autres pays.
Provided they learn new ways of politics.
Pourvu qu'ils apprennent d'autres manières de faire de la politique.
Maybe not in my lifetime.
Peut-être que je ne le verrai pas de mon vivant.
Une petite note d'optimisme.
Thank you. Thank you. Thank you, man. Okay. They're ringing because I've forgotten. There's a SOAS, the School of Oriental and African Studies. They have occupied on Gaza. They've occupied the university.
C'est parce qu'il a des coups de fil parce qu'il y a l'université d'études orientales qui est occupée en solidarité avec Gaza.
And I have to speak there and then I have to speak at another meeting.
Et il doit aller faire une conférence.
Hello?
Yeah, I'm sorry, I've got a bit late. I know, I will leave, I will be there in about 20 minutes. Is that okay?
Absolutely fine, I just wanted to confirm you.
Yeah, I'm coming.
I will meet you at the Bruno Gallery soon. Thank you very much.
Bye.
Yankee,
là, on est à l'université. On est à l'université à Londres. Il y a, je sais pas, 200 ou 300 étudiants qui sont là et qui attendent Tariq Ali. C'est lui qui vient de se faire applaudir sur Gaza. C'est, tous ces étudiants sont intéressés par la question Gaza.
Félicite les élèves qui occupent cette salle de l'université en solidarité avec les Gazaouis. Et c'est un signe de maturité politique. C'est un message envoyé au pouvoir dans ce pays et dans l'autre. C'est que la nouvelle génération s'implique dans la vie politique et refuse de tolérer l'oppression continue du peuple palestinien par le gouvernement israélien.
Yeah. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Les étudiants occupent une partie de l'université en soutien à Gaza.
That's right. This is the School of Oriental and African Studies.
Voilà, c'est SOAS, on est dans l'école d'études orientales et africaines.
Expliquez-nous un petit peu la place de Tariq Ali ici.
He's one of the most committed activists.
C'est un des activistes les plus engagés.
Walking along with John Pilger and Noam Chomsky, and they have inspired a whole generation of youngsters
qui a travaillé par exemple avec Noam Chomsky et qui a convaincu et inspiré des générations entières d'étudiants qui sont engagés politiquement.
When no one was ready to speak against the state. Okay, even in Pakistan, even in Western countries, when people were not ready to speak against the state, where intellectuals were supposed to say yes to whatever the state says, these few people, Tariq Ali, stood up against the state.
Et en Inde, comme au Pakistan, comme ailleurs, quand personne, et surtout pas des intellectuels, n'osaient s'opposer à la raison d'État,
eh bien, il y a de rares personnes comme Tariq Ali qui se sont opposées, qui ont parlé contre la raison d'État.
Not many speak against the state.
Il n'y en a pas beaucoup des gens comme eux qui parlent contre l'État.
The major rule for intellectuals is to line up and sing Hosanna when they march in the parade and see how magnificent they are.
Et parce que la règle générale pour les intellectuels, c'est de suivre le courant et de marcher derrière l'État et de chanter ses louanges.
Et les demoiselles, là, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit?
Yes, we do. You can't leave it to the politicians.
On ne peut pas laisser les choses aux politiques et aux gens au pouvoir.
It's the young people. We are the next generation. We need to speak up. So that's why we are here.
C'est nous la prochaine génération. C'est nous qui allons prendre les choses en main. Faut qu'on parle et c'est pour ça qu'on est venu ici.
Okay, thank you very much.
And we are big fans of France.
Ah, nous sommes des grands amis de la France.
Because of the revolutionary traditions they have.
À cause de la tradition révolutionnaire française.
La tradition est mal en point, mais la révolution était belle.
But they still bring the country to stand still sometimes. The strikes are huge.
Voilà, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des grandes grèves encore dans votre pays parfois.
Parfois.
Merci à toutes et à tous. C'était une heure avec Tariq Ali et avec Guy Van Kiel. Vous l'aviez remarqué, vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, c'est juste où vous pouvez réécouter cette émission. Également, vous pouvez la réécouter sur le site la-ba.org où nous mettrons un lien avec un papier de Amira Haas, notre amie journaliste israélienne. Un papier tout à fait intéressant et stimulant. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry. C'est Lucie Hacoun et Chloé Sanchez qui ont réalisé cette émission préparée par Pierre-Yves Bulto et Marion Dupac. Quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Souple !
Très souple ! C'est quoi ?
Les remboursements au crédit Matmut !
Très souple ! Très souple ! Hop, hop, hop !
C'est les remboursements au crédit Matmut !
Souple ! Très souple !
Hop, hop, ça c'est sûr, la Matmut, elle assure !
Matmut est intermédiaire en opération de banque pour le compte exclusif de Socram Bank, organisme prêteur.
Le cancer en général, je n'en pensais pas grand-chose. Et puis, il y a eu mon cancer. Et là, j'ai eu besoin de comprendre ma maladie, mes traitements, de trouver des réponses à mes questions.
Cancer Info vous donne accès à toute l'info de référence sur les cancers. Retrouvez Cancer Info sur e-cancer.fr ou appelez le 0810 810 821, prix d'un appel local. C'était un message de l'Institut National du Cancer et du ministère chargé de la Santé.
Futuroscope.
Dis, tu m'emmènes à ta robot-partie au Futuroscope ?
Maman, danser avec un robot à 7 mètres de haut dans une ambiance électro-survoltée, tu crois vraiment que c'est de ton âge ?
Oh, s'il te plaît !
Bon, mais tu me promets de pas crier.
La première robot partie par Martin Solveig dans la nouvelle attraction du Futuroscope, c'est pour toute la famille.
Venez vite, jusqu'au 6 janvier, le séjour est gratuit pour les enfants de 5 à 16 ans inclus.
Futuroscope.
Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com. Ouverture de l'attraction dès le 22 décembre.
À demain, 15h pour la base et j'y suis. Les infos, Laetitia Gaillet, salut.
Le geste de Jean-François Copé à François Fillon, le président proclamé de l'UMP, propose aujourd'hui un référendum aux militants pour de nouvelles élections. Il demande également à l'ancien Premier ministre de renoncer à son groupe à l'Assemblée, groupe qui a été créé ce matin, qui rassemble une soixantaine de députés et qui sera dissous aussitôt l'annonce d'un nouveau scrutin, ont dit les fillonistes. Dans le même temps, Nicolas Sarkozy a lui obtenu de François Fillon et de Jean-François Copé qu'ils se rencontrent à nouveau. L'entrevue aurait lieu en ce moment même dans le bureau de Jean-François Copé à l'Assemblée nationale. D'après l'entourage de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy a eu les deux protagonistes à plusieurs reprises au téléphone ainsi qu'à la Juppé et il est déterminé aujourd'hui à préserver l'unité de sa famille politique. La Cour de cassation a définitivement relaxé aujourd'hui Brice Hortefeux après sa sortie sur un militant d'origine arabe en 2009. La polémique était née avec la diffusion d'une vidéo sur lemonde.fr, vidéo sur laquelle on entendait le ministre de l'Intérieur tenir des propos à propos d'un militant arabe buvant de la bière et mangeant du porc. « Ah mais ça ne va pas du tout », avait dit Brice Hortefeux. « Il ne correspond pas du tout au prototype, et à propos des Arabes, l'ancien ministre avait ajouté « Il en faut toujours un, quand il y en a un ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes ». L'humoriste controversé Dieudonné a lui été condamné aujourd'hui à 20 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation, injure, provocation à la haine et discrimination. Cela fait suite à des propos tenus et une chanson dans deux vidéos diffusées également sur Internet. Il transformait ainsi la chanson d'Annie Cordy, Chaud Cacao, en Shoah Nana. La France votera oui à l'ONU jeudi sur un nouveau statut d'État observateur de la Palestine. Laurent Fabius l'a confirmé cet après-midi. Par souci de cohérence, a expliqué le ministre des Affaires étrangères. Plusieurs milliers d'Égyptiens manifestent actuellement place Tahrir au Caire en Égypte. Ils dénoncent le décret qui octroie les pleins pouvoirs de fait au président égyptien Mohamed Morsi. C'est à n'y rien comprendre. En République démocratique du Congo, un autre chef des rebelles du M23 déclare cet après-midi que finalement il ne quittera pas la ville de Goma, et ce malgré l'ultimatum lancé par plusieurs États de la région. Jean-Marc Runinga s'est dit également prêt à combattre l'armée congolaise aussi loin que nécessaire. Le chef d'état-major du M23, le général Makenga, lui, avait affirmé au contraire ce matin que ses troupes auraient quitté la ville d'ici jeudi midi. La CSG pour financer la dépendance. Dans un entretien accordé au Point à paraître jeudi, Jean-Marc Ayrault dit réserver la CSG à d'autres dossiers qu'à la compétitivité. Le chef du gouvernement cite notamment donc la dépendance. Enfin, une station de ski des Hautes-Alpes a été condamnée aujourd'hui à 5000 euros d'amende avec sursis. La société des remontées mécaniques de la station de Vars était poursuivie pour homicide involontaire par la cour d'appel de Grenoble. Cela fait suite à la mort accidentelle d'un skieur de 23 ans sur une piste de ski en 2010. Il avait percuté un poteau alors qu'il skiait sur une piste bleue. La station de ski devra aussi verser 20 000 euros de dommages et intérêts à chacun des parents de la victime et 9 000 euros à son frère. Vous écoutez France Inter, 16h03.
On va tous y passer.
Sur France Inter, au studio 106.
Waouh, la classe.
Frédéric Lopez.
Demain, notre invité est Carole Bouquet.
Oh la vache, quand je pense comme un con, la semaine dernière, je me suis mis en couple avec André Pulvar.
Pour assister à l'émission, rendez-vous demain à partir de 10h30 devant la porte B de la maison de Radio France, ou réservez dès à présent vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page de l'émission.
Et attention, tout à l'heure, nous enregistrons une émission spéciale Noël à 18h30, une émission pleine de surprises.
Frédéric Lopez, on va tous y passer du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
A tout à l'heure.
France Inter.
La voix est libre.
Allez, c'est à vous, monsieur l'Odéon. Foncez.
Merci, Laetitia Gaillet. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'ai le très grand plaisir d'abord de vous retrouver, chers amis auditeurs, et puis aussi de retrouver Nathalie Stutzmann. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Chanteuse, contralto et chef d'orchestre. C'est une nouvelle carrière. Enfin bon, ça faisait longtemps évidemment que vous étiez dans la musique en général, pas seulement dans le chant, et que ça vous travaillait de diriger, hein, c'est ça?
Oui, absolument. Ça me turlupine depuis déjà longtemps.
Oui, puis maintenant c'est un fait, parce qu'on vous a déjà reçu pour Vivaldi, Prima Donna, un disque chez Deutsche Grammophon précédemment, puis voici maintenant avec Orfeo 55, toujours votre orchestre, Bach, une cantate imaginaire. Avant de commencer, Nathalie, donc j'ai déjà parlé de cette affaire pénible hier, mais vous savez peut-être qu'il y a un chef d'orchestre franco-mexicain qui a été kidnappé en 2011, ça fait déjà un long moment, en juillet 2011, à Matamoros. Et donc, c'est absolument terrible, parce que son épouse, que je verrai ce soir d'ailleurs, Ludivine Barbier Casares, lui s'appelle Rodolfo Casares, mais on n'a pas beaucoup de nouvelles, un seul coup de téléphone depuis de longs mois. Et ben voilà, ben, je pense que vous, en tant que chef d'orchestre, vous serez aussi, vous avez peut-être un petit mot à son épouse sur Internet.
Oui, absolument.
Voilà, et puis on se serre les coudes tous. Il y a l'association Otages du Monde, donc je redonne le site qui va être noté sur évidemment notre propre page, franceinter.fr et puis Carrefour de l'Odéon. Donc otages-du-monde.com. Il y en a d'autres, et puis je donne celui de Ludivine, jeune épouse, Ludivine Barbier, elle s'appelle Barbier Casares, mais son site, si vous lui envoyez des messages d'encouragement, on va dire, surtout, et des solutions possibles, peut-être, Ludibarbier, tout attaché, @yahoo.com. www.lutte.fr. Ça va être sur notre site à nous dans quelques minutes, et on pense qu'il faut vraiment se battre pour arriver à résoudre cette affaire qui est humaine tout autant que musicale, parce qu'évidemment c'est un collègue tout simplement.
Absolument. Mais
c'est n'importe quel otage, de toute façon c'est dramatique et on s'en occupe. Alors, Jean-Sébastien Bach avec un disque qui est une cantate imaginaire, c'est-à-dire que vous avez voulu, Nathalie Stutzmann, créer votre idéal de Bach, c'est-à-dire peut-être prendre les pièces que vous préférez pour les assembler et faire votre coup du cœur.
Oui. Ouais. En même temps, je pourrais en faire 5 parce que c'est vrai que le choix est toujours cornélien quand il s'agit de la musique de Bach qui est tellement sublime. Mais l'idée de départ du 10, c'était peut-être plutôt de proposer en fait en une heure de musique un florilège des plus belles pages que j'ai moi personnellement redécouvertes quand j'ai participé à l'intégrale des cantates. Parce que c'est vrai que ça représente à peu près 60 CD de musique et même les grands spécialistes ne connaissent pas tous les chefs-d'œuvre par cœur. Et j'avais envie de faire partager ces coups de cœur, qu'ils soient instrumentaux ou vocaux, de pages parfois très connues, parfois moins connues du grand public.
Oui. Alors avec un orchestre qui est assez conséquent, parce que vous le dites, et Gilles Cantagrel, qui est le grand spécialiste de Bach, le dit aussi dans le livret de ce disque, il dit Bach, évidemment, il avait quelquefois peu d'instrumentistes, mais il s'en plaignait, parce qu'il adorait aussi l'orchestre de Dresde, qui était bien copieux, et puis c'était un homme puissant, c'était un homme d'aspect assez rustique, assez fort, hein, bien campé dans son époque, dans son Allemagne natale, et vous dites qu'il y a un côté quelquefois un peu rural et paysan, et plus rustique que précieux chez lui.
Absolument. C'est, je ne sais pas, il y a une espèce d'idée reçue parfois, d'austérité par rapport à la musique de Bach, et je pense qu'on oublie ce qu'étaient les luthériens de l'époque, qui étaient des gens qui disaient celui qui n'aime pas les femmes, le vin et le chant est un fou.
Et le restera toute sa vie, disait Luther. Hein.
Voilà, c'est exactement, exactement. Et ça, c'est la base de la compréhension, un petit peu de ce qu'on doit faire en tant qu'interprète dans cette musique.
Eh bien, lançons-nous, on va entendre tout de suite une symphonia, c'est-à-dire une pièce instrumentale de la cantate 42 de Bach, le soir de ce même jour du sabbat.